Et c'est sur cette musique mécanique de Pierre Bastien que nous commençons cette session de 10 jours avec Montpellier à 100%, Divergence partenaire du festival Montpellier à 100%. Et tous les soirs, c'est l'heure de l'apéro radiophonique, 18h, 19h. Nous nous retrouvons comme ça in situ. Là, aujourd'hui, nous sommes en direct du Caprice Bar du Musée rue Montpellieret à Montpellier. Nous vous invitons évidemment tous à venir nous rejoindre pendant cette heure. Nous allons présenter justement le festival, les spécificités de cette nouvelle édition, et c'est avec mon cher Manu Plaza que nous allons faire ça.
Bonsoir, ravi d'être à nouveau hors les murs pour une occasion qui vaut le coup, bien évidemment. Festival Montpellier à 100%, on le suit déjà pas mal d'années. Cette fois-ci, la collaboration entre Divergence et le festival se trouve renforcée, puisque, comme tu le disais, on sera présent chaque soir dans la ville depuis différents endroits, les endroits où il se passera des choses en lien avec ce festival. Une très très riche programmation qu'on aura tout le loisir de détailler au cours de cette heure en compagnie de Bobby, qui est notre premier invité et qui est le, comment on va dire, Bobby, le grand Manitou, le coordinateur de cette vaste opération.
Merci, ça fait plaisir.
Bobby, quand on regarde le programme de ce festival, c'est la 8e édition et on a l'impression que c'est une édition très particulière. Déjà, la sirène s'est fait la malle, elle s'est barrée des affiches et des programmes. Donc on a l'impression qu'il y a une volonté même graphique et délibérée en termes de communication d'aller vers un autre territoire. Mais aussi en termes de programmation, on va vers d'autres endroits, me semble-t-il.
Disons que pour paraphraser, hier on a eu la mort d'un grand homme et je dirais qu'on a cédé au cargo culte, quoi, au culte du cargo, et qu'on s'est mis à rêver sur des containers qui passaient au large. Et c'est maintenant notre identité graphique, on garde un lien maritime puisque c'est un peu normal pour des gens de la Méditerranée. Et en même temps c'est une ouverture sur le monde et une ouverture aussi sur les arts, quelque chose de plus mélangé. Puisque la création musicale au XXIe siècle, elle est plurielle. Elle ne se contente pas de faire des disques, elle ne se contente pas de faire des concerts, elle fait des installations, elle fait plein de mariages comme ça qu'on a essayé d'évoquer sur une dizaine de jours avec des propositions qu'on espère singulières.
En 8 années, le festival a quand même beaucoup évolué. On se souvient tous des débuts où c'était carrément l'ambiance chapiteau et on partait dans une programmation qui était essentiellement musicale. Un grand pas a été franchi.
Oui, c'est vrai qu'il y a une évolution. On a toujours souhaité que le dispositif Festival Montpellier à 100% soit un lieu d'expérimentation. Et ça veut dire qu'on a essayé plein de choses, qu'on a participé à plein de mouvements. À un moment donné, je pense que cette scène qui se retrouvait pour des moments très festifs, que ce soit de la musique électronique ou du ska ou des choses vraiment de la musique pour les jambes, et cette ambiance de chapiteau, c'était important, c'était un moment très essentiel. Et là où on retrouve qu'on a été en phase avec les musiciens, c'est qu'on a pu retrouver Ezekiel, par exemple, sous les chapiteaux pour des soirées mémorables électro-dub. Et on a retrouvé les mêmes Ezekiel sur leur installation il y a 3 ans. Et c'était bien qu'il y ait une évolution aussi dans le travail des musiciens. Ça fait longtemps que ça existe. On pourrait dire que ça fait depuis la nuit des temps que les musiciens ont un esprit versatile. Mais là, on est vraiment... Nous, on essaye de suivre ce que les gens ont envie de faire, en termes de, que les créateurs ont envie de faire. Et on espère que le public participe à cette aventure avec un côté laboratoire qui est revendiqué, ce qui explique qu'on ait eu des multiples formes, des avatars chaque fois changeants.
Des multiples formes et adaptées à de multiples lieux dans Montpellier.
Oui, ça c'est super important. Je crois qu'en fait, l'une des écueils qu'on avait avec les chapiteaux, c'est que les chapiteaux, c'est une espèce de grand enfumoir où il y a une ambiance de dingue. Quand le chapiteau respire, on dirait une baleine de l'extérieur, c'est magnifique. Mais en même temps, on ne peut pas faire des choses très intimes. C'est très difficile d'avoir de l'émotion, de la chanson, des choses de ce domaine-là, dans un chapiteau qui est fait pour brasser, quoi. C'est vraiment pour faire transpirer. Et là, on a plein de lieux qui vont, on a des spectacles qui vont de 28 places pour Stimuline, donc le concert audio tactile, jusqu'au Rockstore 900 places. On a une variété de lieux qui correspond à des variétés de formes. Et l'idée du festival, l'idée générale, c'est de trouver chaque fois le lieu qui est le mieux adapté pour proposer chaque fois des musiciens différents.
Alors le festival a constamment évolué au cours de ces 8 années d'existence. On a l'impression que là il y a un cap qui semble franchi cette année. Disons qu'on a l'impression que le virage est plus important que par les années passées, qu'il y a vraiment une volonté d'aller explorer des territoires qui jusqu'à maintenant ne l'avaient pas été.
Tout à fait, je pense que c'est important pour une manifestation. 8 éditions, ça fait beaucoup et ça fait pas beaucoup. Si on réfléchit ce que c'est que l'histoire d'un festival, on a des festivals en France qui ont 30 ans, 25, 30 ans pour prendre les transmusicales par exemple. Et c'est vrai que c'est un projet qui s'inscrit vraiment dans quasiment une génération à chaque fois. Et on avait ce souci de varier les formes. Là, on a pris un virage, je pense, qui va durer sur plusieurs éditions, qui est un souci à la fois d'aller vers d'autres formes artistiques, mais aussi d'avoir une lisibilité et d'affirmer des choix peut-être pas plus radicaux. J'aime pas ce terme parce que ça voudrait dire que les gens qui font de la musique, ils ont un radicalisme dans leur proposition, qui n'est pas du tout le cas. Je pense que ce qu'on a comme proposition sur le festival, c'est accessible, c'est de qualité, mais accessible. Disons qu'on a voulu faire la part belle à des gens qui ont une vraie idée de ce qu'ils ont envie de faire. Alors, c'est paradoxal de dire ça, mais je crois qu'il y a ce côté qui est fort là-dedans, de l'identité forte, de la personnalité. Et le virage, il est certainement dans ce souci d'affirmer que si on fait une proposition musicale dans un festival, il faut que la programmation elle soit forte et que ça ne soit pas une programmation par défaut. Ça, c'est vraiment ce qui était un peu le souci qu'on avait parfois. C'est on a souvent plus d'envie que de moyens. Et là, on a eu envie justement de se dire, chaque seconde de musique qu'on écoutera sur le festival, c'est des secondes qui ont été pensées, qui ont été choisies. Et on sait pourquoi elles sont là. C'est pour ça qu'on a fait un manifeste aussi pour être franc avec les artistes, pour être franc avec le public et leur dire, voilà dans quel cadre on est, voilà ce qu'on ne prendra pas, voilà ce qu'on prend. Et ce risque-là, prenez-le avec nous.
Tu évoquais un manifeste. Je crois aussi vous avez associé pour la première année une forme de comité de réflexion qui a permis peut-être aussi d'associer des personnalités qui n'étaient pas forcément toutes spécialisées dans la musique pour aller vers ces nouveaux territoires.
Voilà, tout à fait. Je crois que le projet a toujours été un projet collectif. Ça, c'est vraiment important de le souligner. On a toujours été dans une dynamique collective. On a toujours souhaité qu'en fait, il y ait des gens de plusieurs qui soient vraiment un vrai collectif, une vraie vie démocratique. On a toujours fait la programmation à plusieurs. Là, maintenant, on a formalisé la chose avec d'un côté un comité de réflexion artistique qui est libéré de tout ce qui est les soucis ancillaire, on va dire, de la gestion d'une association et qui se consacre uniquement à l'artistique. C'est des gens avec des personnalités très variées, qui viennent de milieux très variés. Et je crois qu'en fait, le fait d'avoir ce côté très très différent dans les approches, on n'est pas juste avec des gens qui sont dans la musique. Ça veut dire que des fois, on est un peu entre nous. Là, ça a donné une respiration. C'est encore l'air du large qu'on ressent. Je crois que là, on sent bien les amoureux.
Pour recontextualiser, nous sommes en direct du bar du musée, c'est l'ouverture ce soir du festival, une ouverture qui se fait avec un vernissage, une fois n'est pas coutume, on l'avait eu l'an passé, il y a 2 ans également, et ça se fait dans un endroit assez atypique, c'est la première fois que vous investissez ce lieu trop peu utilisé en général à Montpellier, et qui est pourtant magnifique, c'est la chapelle de la Miséricorde.
Voilà, on a eu ce souci de varier les lieux, et d'aller vers des lieux qui sont pas dans le, on va dire, dans la temporada normale, c'est-à-dire que voilà, on va dans les salles de concert, on fait des choses à l'Antirouille, on en a fait l'année dernière, on fait des choses au Rockstore, on fait des choses à Victoire 2 encore cette année, au Jam, etc. Mais là, c'était plaisant de se dire que pour une installation exceptionnelle, de trouver un lieu qui sorte de l'ordinaire et qui ait une adéquation entre la chapelle de la Miséricorde, une chapelle du 19e siècle, c'est assez rare, avec des tons qui sont assez particuliers, un éclairage aussi qui est bizarre aussi. De faire l'installation là-bas, ça a du sens parce que ça permet, un, d'être au centre-ville, ça permet aussi d'être sur un parcours muséal et je crois que c'est important de croiser les publics, de permettre aux gens qui sont intéressés par le patrimoine, il y a le musée de la pharmacie juste à côté, de rencontrer une création qui est contemporaine dans sa temporalité, on va dire, et qui est en même temps très facile d'abord. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut le dire. Quoi. Aller vers les gens, c'est une des missions d'un festival. Il y a un côté démocratisation de la culture et des lieux comme ça permettent ce genre d'aventure parce que c'est au centre-ville, parce que c'est un lieu chargé d'histoire.
Et chargé vraiment... d'histoire et finalement aussi d'une histoire récente où on l'a vu être associé à des expériences dans les arts contemporains notamment.
Tout à fait, récemment en fait c'est quelque chose qui a été utilisé, c'est un lieu qui a été utilisé pour la Biennale d'art contemporain chinois par exemple. Là ça a été, c'est en train de se remettre en place puisque le musée de la pharmacie vient d'ouvrir cet été. Je crois qu'en fait c'est aussi les territoires, quand on parle des nouveaux territoires du son, c'est une des ambitions qu'on a dans le festival, c'est de chercher les formes musicales innovantes. Et les nouveaux territoires du son, les nouveaux territoires du son, ça peut être le corps, comme dans Stimuline, mais ça peut être aussi des lieux comme ça où on ne s'attend pas à ce qu'un festival de jeunes punks comme le nôtre vienne s'encanailler.
Manu, est-ce qu'on va justement écouter une première pause musicale qui va vers ces nouveaux territoires ?
Alors justement, puisque Pierre Bastien est dans l'an... tout près d'ici, tout près de nous, et qu'il piaffe d'impatience. On va écouter Pierre Bastien avec un extrait d'un album sorti il y a quelques années. Ça s'appelle Éloge au pick-up. On écoute ça tout de suite. Mmh. Voilà, c'était Éloge du pick-up, pas Éloge au pick-up, cet extrait de Musique Paraloïdre, un album sorti sur un label néerlandais il y a quelques années de ça, un album de Pierre Bastien donc qui nous a rejoint et dont on va pouvoir admirer le mécanium. Est-ce qu'on dit le mécanium ou les mécaniums, Pierre Bastien ?
Alors là, on dit ce qu'on veut, en fait, parce que j'ai pas d'idée là-dessus sur la question. Moi, j'ai appelé ça comme ça parce que toutes les inventions nouvelles me semblaient prendre un nom latin. On dit la vidéo, on dit le facsimilé. Donc je me suis dit, je vais aussi prendre un nom latin.
Le mécanium, c'est à la fois un orchestre et c'est aussi les éléments qui le composent.
Oui, voilà, oui, ouais. C'est ça.
Alors, on va essayer de présenter cet orchestre aux gens qui sont derrière leur radio et qui pourront venir voir cet orchestre donc à la Chapelle de la Miséricorde à partir de ce soir et jusqu'au 14. Présentons ce mécanium. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, j'ai fait une petite sélection d'entre tous les petits robots que j'ai fabriqués au long de ma vie. Et là, il y en a 8 et 18, une vingtaine en fait, si on compte ceux qui les déclenchent. Parce qu'il y a, je crois, 18 machines qui jouent, qui sont fabriquées en mécano, qui sont activées par un moteur électrique, un petit moteur de pick-up. Et c'est pour ça que je fais un éloge au pick-up. Parce que... et ce moteur de pick-up actionne des poulies, des engrenages qui vont vers... soit des baguettes, et soit des archers, soit des doigts artificiels, pour jouer ici, spécialement, des percussions. Il y a un orchestre de percussions de 10 percussions, ou des instruments à cordes qui se font écho, qui se relaient.
Alors Montpellier à 100% vous a particulièrement mis à l'honneur cette année parce que en plus de cette exposition d'ouverture et qui sera tout au long justement du festival du 5 au 14 novembre à la Chapelle de la Miséricorde, vernissage et ce soir je le répète, il y a une soirée également, une soirée partagée au Rockstore, là où vous confrontez à un rapport de salle beaucoup plus type concert, ce que vous faites régulièrement aussi, et vous partagez l'affiche avec un aficionado, enfin quelqu'un qui a croisé votre parcours plusieurs fois, Pierrick Sorin, et un autre aussi, qui a aussi croisé votre parcours, c'est Dominica.
Oui, avec de Nantais, donc. oui, avec Pierrick, on s'est rencontrés assez loin de Nantes, quand même, la première fois, c'était au Japon, et lui présentait une belle installation qui s'appelle « Une vie bien remplie », et moi, je présentais quelque chose d'assez proche de ce que je présente ici, donc aussi un orchestre en mécano, et puis on a décidé de voir ce qu'on pouvait faire plus tard, et ensuite à Nantes on a improvisé un duo, et puis voilà, ça a continué. Chaque année on joue à peu près 3-4 fois dans l'année ensemble, et chaque fois c'est pas une improvisation du tout, puisque ni l'un ni l'autre on improvise ce qu'on fait, mais on ne se raconte pas ce qu'on va faire, et puis on le joint ensemble, on arrive avec chacun des nouveautés et on les confronte sur le vif.
Pierrick Sorin, beaucoup plus repéré dans les champs de l'art contemporain sur un médium qui est la vidéo.
Oui, et oui.
Dominica, la rencontre justement.
Et Dominica, ça c'est une rencontre peut-être plus ancienne, à la haute époque, j'accompagnais de temps en temps Pascal Comelade, et là on jouait un trio, d'ailleurs je crois que Pascal avait appelé ça éloge du trio, le peintre, et on avait fait une première partie d'un Dominique A, quasi inconnu à l'époque. À l'Olympique à Nantes. Donc ça, c'était la première rencontre. Et puis ensuite, on s'est croisés plusieurs fois. Il me semble que Dominica... enfin, c'est pas qu'il me semble, c'est que j'ai lu des lignes de Dominica très très belles sur ce que je joue, et ça m'a beaucoup touché. Et il m'a invité deux fois sur des cartes blanches qu'il avait, une fois à Reims il y a quelques années, et le mois dernier à à la ferme du Buisson. Mmh.
D'ailleurs, certaines de ces lignes, on les retrouve dans le programme de Montpellier.
Ah,
100%.
Oui, ouais, oui, encore le programme. Âpre mécanique qui semble jouer à rendre l'âme en continu, la trompette se chargeant d'interpréter le thème des funérailles, mais nul n'est dupe et tout est très inquiétant. Ça, c'est la plume de Dominique A.
Ah oui, qui... je ne connaissais pas celui-là.
Qui dit aussi que grâce à Pierre Bastien, il a découvert qu'il aimait les musiques ethniques sans le savoir, qu'il aimait le jazz sans le savoir, qu'il aimait les musiques électroniques sans le savoir.
Qu'il aimait les hommes sans le savoir, et c'est là où il a fait son coming out. Manu Skatchko nous a rejoint également sur le plateau, on l'évoquait avec Bobby tout à l'heure. Un comité de réflexion artistique s'est greffé cette année au Montpellier à 100% pour élargir peut-être certains horizons. Et tu en fais partie, homme de programmation éclectique mais toujours très pointu. Et on peut dire que tu fais partie, tu es peut-être le moteur justement de l'ouverture vers un Pierre Bastien, vers un Pierrick Saurin.
Bah, disons que dans les réflexions qu'on a eues sur le CRA, c'était de faire évoluer cette année le festival sur des formes plus atypiques musicales.
Le CRA, c'est le comité de réflexion.
Oui, le comité de réflexion artistique oui, chaque fois. Et donc, l'idée dans ce cadre-là, c'est de tendre vers des projets un peu plus. Un peu plus différents, mais en même temps en restant très populaires. C'était pas, enfin, je pense qu'on avait l'idée collective de pas être sur quelque chose de très, enfin, d'élitiste, ce genre de choses. Donc c'est de garder quand même une bonne partie du public qui existait déjà sur le festival, sur les années antérieures. Et donc voilà, c'est le projet de Pierre, son travail, etc., paraissait correspondre à cette évolution à la fois du festival, de ce que c'était le festival sur les années précédentes, et que c'était une belle façon de faire la transition entre ces deux moments. Quoi. Voilà.
Toi, tu as connu le travail de Pierre à quel moment ?
Alors, j'ai connu le travail de Pierre il y a pas mal d'années quand j'étais en Alsace. Et donc j'ai vu son travail quelques fois. La première fois, je crois que c'était au Festival Musique Volante à Metz. Ça va être je vais pas dire de bêtises, mais ça va être en 97, un truc comme ça. Et depuis, ça a été un choc, vraiment. C'était en plus dans un chapiteau, enfin, c'était assez magique. Et depuis, c'est un artiste qui m'a toujours intéressé, intrigué. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai toujours suivi son travail. Et plus les années passant, puis je l'ai fait venir au Noumatrouf avec le festival Jazz à Mulhouse. Et puis là, ça fait quelques années qu'on essaie de faire du travail ensemble, enfin, que je le programme sur des scènes nationales ou ce genre de choses. Quoi, voilà. Et on essaie aussi de travailler sur quelque chose de créatif l'année dernière, sur une création qu'on avait fait à la Maison de la Musique à Nanterre. Qui mélangeait en fait à la fois le travail de Pierre, de Pierrick, mais aussi des musiciens qui travaillaient avec Pierre, Alexei, Alex, et c'était vraiment très très, très, très beau comme projet.
Alors ça, c'est une constante dans le travail de Pierre Bastien, c'est se confronter au travail des autres. J'ai l'impression que ça fait partie c'est un fil rouge dans votre parcours artistique. En tout cas, il y a toujours cette volonté de travailler avec Pascal Comelade, avec Jackie Liebeseit pour les Oblique Sessions, des trucs comme ça, avec des chorégraphes même aussi, puisque il y a une collaboration avec Dominique Bagoué. Ça s'est passé comment, ça, avec Bagoué, et à quelle occasion?
Ça remonte au calende grec, mais enfin, quand même, oui, ça s'est pas. C'est vrai, comment, je me souviens plus vraiment. Je pense que j'avais joué avant avec une autre compagnie de danse. Enfin, bref, on avait fait un disque, mon premier disque. Et c'était un disque autoproduit et puis difficilement trouvable, comme d'ailleurs presque tous mes disques. Et malgré ça, Dominique avait été... Elle avait connu et nous avait engagés. Je dis nous parce que c'était un duo à l'époque.
C'était sur quelle création ?
Ah, ça s'appelait Tartine, ça s'appelait Légende 2, et ça s'appelait Sur des herbes lointaines, parce que je crois qu'il avait vu qu'on en utilisait quelques-unes.
De façon plus proche, ouais. Aujourd'hui, les Mécaniums... Enfin non, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, les collaborations. Là, on parle de gens français, de chants assez divers, mais on va jusqu'à... On voit aussi, dans ta biographie, un Aphex Twin apparaître, par exemple.
Robert Wyatt.
Eh oui, c'est bizarre parce que moi, j'ai l'impression de tourner en permanence seul. Hein. Je vais d'un point... Je fais même pas des tournées, je fais plutôt des zigzags. et j'ai l'impression de faire ça tout seul. Mais en fait, c'est vrai que j'ai croisé pas mal de gens. Et puis, mais en fait, Aphex Twin, oui, on a joué sur les mêmes scènes. Et puis, il m'a invité sur son label. Après avoir écouté le disque qu'on vient d'entendre, qu'on vient de passer, oui, ça s'est passé un petit peu de façon où j'y croyais pas, mais en fait, je crois que grâce à lui, j'ai enfin pu participer à une plus ou moins à un mouvement. C'est-à-dire, j'ai toujours été à la marge, malgré moi. Hein. Je veux bien, moi, faire du rock ou du folk ou de quoi que ce soit, mais chaque fois qu'on me demande un peu ce que je fais, et y compris si je Google ou si je cherche ma musique sur iTunes, il y a toujours marqué « inclassable ». Et c'est un peu énervant. Et grâce à Aphex Twin, qui m'a inséré dans un label Reflex, qui est un label de musique électronique, sans toucher à l'électronique, qu'en touchant à des tournevis et à du mécano, j'ai quand même pu plus ou moins m'intégrer à un mouvement musical qui compte.
Alors justement, par rapport à cette classification impossible, moi j'ai une petite anecdote. Je me souviens avoir vu une performance de Pierre Bastien à Tarascon-sur-Ariège dans un parc préhistorique.
Ah
oui. Ouais, c'était il y a 2 ou 3 années.
Il faisait froid d'ailleurs. Hein,
c'était plutôt l'été, mais il faisait pas très chaud.
Hein, pas chaud.
Et il y avait un public qui était là sans trop savoir apparemment ce qu'il venait voir. Et
préhistorique.
Voilà, pas mal de vieilles dames tout autour qui se demandaient si c'était du jazz, de la techno, et qui avaient l'air assez subjuguées par ce qu'elles voyaient et ce qu'elles entendaient. Ouais, ouais. Ouais.
Je me souviens qu'il y avait aussi, je jouais sur une île, et donc j'étais loin du public.
Ouais,
j'aime
ouais.
pas ça vraiment. Ouais,
et ouais. puis il y avait un musicien qui jouait aussi avec des os de...
Des pierres, des cailloux.
Des choses comme
et des
ça.
Os, oui, c'est vrai. Ouais.
Ouais. Toujours des cadres assez inattendus pour les...
Ça arrive souvent. Ben justement, ça vient peut-être du fait d'être inclassable. On met les gens inclassables un petit peu n'importe où, finalement, quand on les... Enfin, dans des endroits très inattendus. Et pendant longtemps, ça m'arrivait de jouer un soir dans un café, et puis le concert suivant, c'était dans un musée d'art contemporain, et puis le concert suivant, c'était dans une salle de rock. Enfin, c'était toujours... Parfois, j'étais de plein pied, parfois, j'étais à 2 mètres de haut. Et voilà.
Est-ce que tu as déjà expérimenté le format chapelle, tel qu'il est maintenant ?
Ça m'est arrivé, oui. Oui, et même des machines comme par exemple la Metz, je ne me rappelle pas comment s'appelle cette chapelle, mais j'ai fait une installation. La chapelle est trinitaire, oui, peut-être. Oui, c'est donc arrivé, oui. Mais jamais en investissant l'hôtel comme cette fois-ci.
Alors, les mécaniums, comme on le disait, ont une vie quasiment autonome, c'est-à-dire tu les montes et c'est à eux de faire la musique. Mmh. Ce qu'on va pouvoir voir le 12 novembre au Rockstore, là tu es sur scène.
Oui, j'ai besoin d'y être parce que eux, les petits robots que je vais utiliser, ils savent pas travailler tout seuls, donc il faut que je les aide.
Donc c'est quoi comme type de présence ? Là tu as une présence type on pourrait l'assimiler à un technicien qui vient régler des choses comme ça ?
Oui, c'est ça, oui. Plus enfin moi je suis un peu timide et si j'ai rien à faire sur une scène, enfin je pourrais pas ne faire que pousser un bouton et attendre que ça se passe. Donc je me donne beaucoup de travail sur la scène de façon à avoir beaucoup de choses à faire et ne pas me poser la question de la scène. Et donc je joue aussi de la trompette tout en faisant le mix des machines, tout en les travaillant, changeant les modules. Et je fais aussi une partie vidéo que j'enverrai à Pierrick. C'est-à-dire j'ai quand même 4 caméras que je manipule.
Et tout ça, ça laisse une certaine place au hasard, j'imagine ? Ou pas du tout ? Ou le moins possible ?
C'est-à-dire l'avantage de jouer seul avec des robots, c'est qu'on n'est pas obligé de partir à la mesure 4 comme on avait comme on devrait prévoir avec d'autres musiciens. Quand le désavantage de jouer avec des musiciens, c'est qu'on est obligé de se donner des repères et de se dire voilà, on part après 4 mesures ou on part sur tel accord, etc. En jouant avec des machines, et je crois que dans la musique électronique la musique électronique a donné cet apport de réactivité avec le public. Si j'entends que les gens s'ennuient, je passe très vite sur quelque chose et les robots me suivent, ou du moins je fais en sorte qu'ils me suivent. On n'est pas obligé d'aller d'aller dans l'oreille du batteur et lui dire on joue pas le morceau suivant ou bien on écourte le morceau. Si j'entends qu'au contraire, si je sens que les gens prennent plaisir à telle chose, je peux très bien rajouter un module et le jouer une minute plus longtemps. Voilà. Dans ce sens-là, c'est improvisé. Mais sinon, les choses sont quand même bien claires.
Mm-hmm. Alors, question psychologique à Defranc, tu es allé vers les machines, pourquoi par une déception de l'humain ?
J'ai lu ce que dit FX Twin là-dessus. Il dit que lui, il aime jouer avec des machines pour éviter les sessions et les discussions interminables avec des musiciens. Il y a une partie, je serais peut-être un peu plus sociable que ça, donc les sessions et les discussions, ça me plaît bien aussi, mais c'est quand même bien pratique d'avoir des machines qui sont toute la journée, enfin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à disposition à la maison.
Et même pas syndiquées.
C'est vrai. Oui, on ne mange pas tellement de pain.
Et puisqu'on parle de sessions, peut-être on peut évoquer ces sessions obliques avec lesquelles on va clore l'entretien d'ici un petit moment. Comment ça s'est passé alors la rencontre, on a déjà évoqué Pascal Comlade. Je crois que ça faisait un petit moment que déjà vous travailliez ensemble. Et puis il y a eu évidemment aussi Jackie Libeside de Cannes et Jacques Bérocal. Comment s'est passé cette rencontre et ce travail à quatre mains?
En fait, Pascal a été généreux au point de nous mettre tous les quatre sur le même plan. Mais en fait, c'est une idée de lui et qui a invité trois musiciens qu'il avait envie de réunir. Moi, je connaissais Cannes, mais j'étais pas si fan de Jackie Libeside qu'au point de penser à l'inviter sur un projet. Ça, c'est une idée de Pascal, vraiment. Et en tout cas, ça a été très, très intéressant. En particulier, cette rencontre, parce que je connaissais déjà Pascal Comlade et Jacques Bérocal, j'avais déjà enregistré avec eux, joué avec eux, mais Jackie Libeside, c'était une nouvelle machine qui arrivait, mais alors une machine prolixe, quoi, qui peut faire des merveilles, mais qui joue avec une précision infernale. Et ça, c'était vraiment très impressionnant. Je crois que ça lui-même a énormément aimé jouer avec une paire de pinces. J'ai un morceau qui s'appelle Morceau en forme de pince. Ce sont des tenailles qui forment une rythmique. Et lui, ça l'a emballé. C'était la première fois qu'il jouait avec une paire de pinces. Et il était très, très intéressé par ça.
Je parlais de hasard tout à l'heure, le hasard a pas mal joué sur ce disque, puisque les sessions elles-mêmes ont été plus ou moins régies par le hasard, c'est-à-dire par un système de mise au point par, je crois, Brian Eno, je crois, c'est ça ?
Oui, mais c'est tellement Pascal Comlade qui en a décidé que moi je suis à peine au courant.
D'accord.
Je le sais, oui, ça a été fait selon un... Mais ça m'a pas...
D'accord, c'était pas...
Ça m'a ni gêné, ni inspiré. Okay. Mais sans doute, oui, Pascal Comlade et son producteur de l'époque, oui, étaient très intéressés par ce processus.
Alors, je m'adresse à nouveau à Manu Skatchko, qui, dans ta profession, tous les jours, t'es obligé aussi de classifier, mettre les gens dans des cases. Et quand on est face à quelqu'un d'inclassable comme Pierre Bastien, quand même, à quel courant, aujourd'hui, tu le rattaches, toi, dans ton regard de programmateur, entre guillemets ?
Ben, ce qu'il y a de bien avec des projets et des personnalités comme Pierre, c'est que il n'y a pas besoin de les rattacher. Voilà, l'idée, c'est d'amener les gens, le public au sens final du terme, de les amener à découvrir ces artistes-là sans les mettre dans des cadres. Parce que le cadre ne correspond absolument pas à ce qu'il est. Et en étant en dehors, c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que mettre un cadre coupe aussi d'un certain public. Et on aurait tendance à le mettre dans des cadres assez abstraits. Voilà, alors que sa musique n'est pas du tout ça, quoi. Et donc c'est toujours délicat pour moi. Pour moi, c'est la musique populaire, hein, voilà, au bon sens du terme. Donc après, c'est vraiment compliqué de tendre sur un truc de classification parce que il va bien au-delà de ça, quoi. Voilà. Et
parce que quand on pense justement à la musique concrète, avec des gens comme Ferrari, des gens comme ça qui à un moment donné ont
utilisé, mais qui donnent une connotation, tu vois, de suite.
Exactement, voilà. Une connotation très pointue, très exigeante.
Alors que lui, il y a une partie de rêve, et même il y a une partie formelle, c'est-à-dire des objets, etc., qui va au-delà d'un projet musical. Enfin, il y a aussi toutes ces mécaniques, etc., qui sont vraiment c'est des très beaux objets, finalement, quoi, qu'il arrive à créer.
Évidemment.
Et donc, c'est une imagerie vraiment différente.
Quoi. Et on convoque, évidemment, des représentations et une imagerie de l'enfance.
Ah oui, tout à fait.
Aussi,
ouais, ouais,
j'imagine. Parce qu'on lit que dès très jeune, finalement, les premiers mécaniums, enfin, ou en tout cas, l'ancêtre du mécanium est arrivé, est sorti de tes mains très tôt.
Oui, oui, vers 13-14 ans, oui, j'ai fabriqué un petit automate, oui. Mais après, je ne savais pas que ça allait être ma vie à cette époque-là. Donc j'ai abandonné pendant assez longtemps.
Pour faire des sciences naturelles en lycée.
Oui, pour faire autre chose.
On va vous laisser justement retrouver le vernissage, justement. On invite tous nos auditeurs à aller Chapelle de la Miséricorde. C'est à partir de 19h. C'est ce soir, c'est l'ouverture
c'est le vernissage
de Festival Montpellier à 100%. Et ça s'ouvre avec les mécaniums de Pierre Bastien.
Et ensuite, pendant toute une semaine, même les 10 jours à venir, on pourra voir ces mécaniums. J'imagine que les mécaniums qu'on peut voir à la chapelle ne sont pas forcément ceux qu'on retrouvera sur la scène du Rockstore le 12 novembre.
Non, ce sont des choses différentes, oui. Ouais.
Pour préciser, la Chapelle de la Miséricorde, c'est quand même assez peu connu par nos auditeurs, c'est rue de la Monnaie. C'est assez simple à trouver, c'est une forme de parallèle de l'esplanade à côté du bar du musée où nous trouvons. Petite pause musicale orchestrée par Manu Plaza.
Avec Wooloo Mooloo Bay, un titre écrit par Pierre Bastien sur cet album Oblique Session. Deux mots sur ce morceau.
Oui, bah, je l'ai écrit à Sydney où se trouve la Wooloo Mooloo Bay. Mais à part ça... là, il est interprété de façon très excentrique par Jacques Bérocal avec une trompette qui s'envole très loin des harmonies du thème. Et puis, je pense que c'est bâti un peu comme dans le jazz avec des chorus. Je pense que le chorus de Pascal Comelade est vraiment étonnant. Oui.
Merci.
Merci à vous deux. Voilà, de retour en direct du bar du musée Le Caprice, rue Montpellieré, non loin de la rue de la Monnaie, où à la chapelle de la Miséricorde commence à 19h le vernissage de l'exposition sur Pierre Bastien qui ouvre le festival Montpellier à 100%, dont, putain, alors là j'ai un ensemble de conjonctions et de prépositions, dont nous recevons pour un deuxième tour de chauffe le grand Manitou, le directeur, le Bobby, mieux connu. Moins bien connu sous le nom d'Yves Bonnemel. Salut Bobby, à nouveau. On va faire avec toi un tour comme ça d'horizon des grands temps et des temps forts de ce festival. Éclectique, comme on le disait. Et notamment, ça se joue déjà entre aujourd'hui et demain, des Mécaniums, on passe à de l'Afrobeat.
Voilà, Afrobeat et donc Fanga, qui est le groupe français référent en Afrobeat. Et on a de la chance, puisque
ils sont montpellierains.
Et je ne sais pas si tous les montpellierains se rendent compte de l'aura qui est désormais celui de Fanga, qui a un label qui s'appelle Underdog. Ils sortent leur nouveau disque ce mois-ci, et c'est une avant-première ici à Montpellier. Voilà, ils jouent partout sur la planète désormais, et c'est un groupe qui a changé de division, et pour nous c'était important d'ouvrir avec un groupe d'ici qui en même temps n'est pas d'ici, qui est un groupe d'ici et d'ailleurs, et qui en même temps s'inscrit dans une vraie qualité, puisque c'est la démarche du festival.
Cet équilibrage justement local, national, international, c'est quelque chose qui est au centre de votre démarche de programmation?
En fait, on aime bien qu'on programme les gens sur des critères autres que territoriaux. En ce moment, c'est toujours compliqué de faire venir des artistes étrangers, puisque autant vous dire que c'est sévère à la frontière. Et en même temps, cette ouverture d'esprit, c'est celle qui est la tradition française des troubadours, c'est celle qu'on veut défendre. C'est cette culture ouverte sur le monde qui est importante. Et donc, il y a des gens d'ici, puisque finalement, ils sont de qualité eux aussi. Il y a des gens d'ailleurs, il y a des New-Yorkais, il y a des Autrichiennes, il y a des gens un peu de tous les pays. Et je crois que c'est important de garder cette idée de France ouverte sur le monde.
Et puis, toujours fidèle à cette idée de ciné-concert, parce que ça, c'est pas une nouveauté cette année, hein, le ciné-concert, mais c'est une idée qui fait son chemin et qui attire toujours du public. Et là, il faut dire que ça éveille particulièrement la curiosité cette année, puisque c'est Mad Max, un film que à peu près tout le monde connaît, mais dans une réinterprétation musicale exécutée par des très talentueux et très prometteurs jeunes normands, je crois, Montgomery. Ce sera le vendredi 6 novembre, donc après demain. À l'espace Richter, là encore un lieu assez inhabituel.
Voilà, c'est un nouveau lieu de spectacle qui est dans la fac Richter, donc c'est à la sortie de la ville. Si vous êtes un vieux Montpellierain, vous vous souvenez que là-bas à Richter, c'était le lieu où il y avait les gros concerts. On y a vu U2, les Pink Floyd,
Michael Jackson.
Mais non.
Et il y avait même eu le boss aussi, je crois, qui était
passé.
Ah
oui, Bruce, ouais.
Et donc voilà, c'était un lieu, et dessus, ils ont construit une fac, et dessus cette fac, ils ont fait une salle à la Maison des étudiants, qui est donc la salle dans laquelle on va faire ce spectacle. C'est une magnifique salle pour le ciné-concert, puisqu'il y a des bons fauteuils, il y a un bon écran. Et là, on a un projet musical qui est complètement ésotérique, avec d'un côté l'un des plus beaux groupes qu'on ait en France, qui fasse un mélange de pop et de folk, avec une très belle personnalité, et un des films phares des années 70-80, avec une trilogie dont tout le monde se souvient. Et là, on va avoir des belles rencontres.
Comment ça se passe dans ces cas-là? C'est quoi? La musique est jouée live sur scène, et voilà. Le film est en toile de fond, et...
Ouais. Voilà, le principe du ciné-concert, c'est vieux comme le concert est vieux comme le cinéma, puisqu'au début du cinéma, il n'y avait pas de musique ni de paroles, et il y avait un piano dans la salle. Ben là, ils jouent avec des guitares électriques, avec des batteries devant l'écran, et en même temps que les images se produisent, il y a le groupe qui joue au fur et à mesure son soundtrack à lui. Et là, on se pose plein de questions, puisqu'on a vu des extraits, puisqu'ils l'ont déjà fait à l'Astrolabe, par exemple, à Orléans, ils l'ont fait quelques fois. Et on sait qu'il va se passer des choses, puisque les ciné-concerts, dans les tournées normales des groupes, c'est quelque chose de particulier, c'est des side projects, c'est des choses qui sont à côté des tournées traditionnelles avec l'album qu'on défend sur scène, etc. C'est toujours des projets qui tiennent beaucoup à cœur des musiciens. Ils les jouent très peu de fois, et on est bien dans cette idée de proposer des événements où ça sera peut-être la dernière fois qu'on verra Montgomery jouer Mad Max à Montpellier.
On lance justement en toile de fond, comme ça, pour accompagner cette interview, un morceau de Montgomery pour que les gens se remettent ça en tête.
Et puis, un petit détail qui est peut-être pas forcément absolument passionnant, mais qui mérite d'être souligné quand même, c'est que le guitariste de Montgomery est aussi le guitariste de Dominica. J'ai appris ça récemment, comme quoi encore une connexion supplémentaire entre les artistes du festival.
C'est incroyable, voilà. C'est vrai qu'il y a des croisements comme ça, le monde des petits.
Et paraît-il que Dominica achète les Mediators au même magasin que le guitariste de Montgomery.
Et je connais son garagiste aussi. Bien sûr, ma belle amie.
Montgomery qui sera donc à la salle Richter pour un ciné-concert Mad Max, et ça se passe donc le 6 novembre, après-demain. Et suite au 6 novembre, il y a un 7 novembre, et ça c'est à peu près tous les ans. Après un jour, il y en a un autre, et là ça se passe au Trioletto pour une des plus belles soirées à mon sens du festival. C'est Fredo Viola et Soap and Skin. Fredo Viola qui a fait notamment il n'y a pas très longtemps la couve des In Rock, qui est un petit peu justement ce New Yorkais qui monte et qui avec un premier album a tout raflé.
C'est ça, et on a la chance d'avoir un double plateau. Voilà, les gens qui sont allés au festival des In Rock resteront sur leur faim. Nous, on aura en plus Soap and Skin, une Autrichienne qui joue du piano avec une voix évanescente. C'est très délicat, c'est très fragile, et en même temps, il y a un côté univers barré qui est très intéressant dans sa démarche. Le Trioletto, c'est une salle qui est magnifique pour justement ce côté intime. Fredo Viola, vous le reverrez certainement, puisqu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui, et Soap and Skin, c'est pareil, mais vous les reverrez dans des grandes salles. Et je crois que c'est ça aussi le côté unique d'un festival, d'un événementiel, c'est de proposer ben voilà, un double plateau avec deux rencontres, deux univers, et on pense, déjà les retours qu'on en a des artistes et de leur staff, c'est que pour eux, ce sera une date importante.
Et toujours avec une politique tarifaire Montpellier à 100% qui reste hyper abordable.
Ah ben là, on est à 11 euros plein tarif. Il y a du 5 euros pour les gens qui ont le pass culture. Ça reste les tarifs du Trioletto et du Pousse. Et je pense que ça, c'est, voilà, ben c'est, si on veut que les gens aient accès à la culture, on n'est pas obligé de faire du gratuit, on peut aussi faire des tarifs intéressants. Je pense que c'est plus dans le respect de l'artiste. Ça permet que le public participe avec son obol à l'organisation de tout cela. Il ne soit pas juste là pour venir sans savoir pourquoi il est là.
Les nourritures spirituelles, c'est bien, mais les nourritures tout court, c'est bien aussi.
Oh, c'est beau ça, mon cher Manu.
Pas mal, hein. Cette année, nouveauté, brunch, brunch pour tous dans le cadre du festival à 100%, en partenariat avec la Maison pour tous Voltaire. Ce sera dimanche, hein, c'est souvent le dimanche les brunchs, pour se remettre des excès de la veille, et là ce sera avec un jeune, je sais pas si on peut dire un jeune chef, mais en tout cas un jeune cuisinier fort talentueux, paraît-il, Xavier Valnet.
Alors Xavier Valnet, voilà, c'est en fait un jeune cuisinier qui a commencé il y a bien longtemps son métier. Vous savez que ça commence par de l'apprentissage, hein, et qui maintenant est du côté de Lyon, après être passé par Avignon, l'Hôtel de l'Europe, etc., et qui a eu envie à la fois de d'astiquer nos papilles, de les exciter avec des choses rares. Et c'est un moment de convivialité. On aura aussi des projections, donc le thème c'est Mondo TV, c'est-à-dire un petit peu des choses autour du cinéma planétaire et d'un peu un côté do it yourself dans le cinéma bricolé qu'on adore. Et c'est un moment de convivialité le dimanche pour se retrouver, pour se poser, être dans autre chose que du spectacle et être dans un moment où on se réunit à la Maison pour tous. C'est important aussi le lieu qui est celle de la Maison pour tous Voltaire, pour partager. Et je crois que cette notion de partage, la table, c'est le lieu par essence où on partage dans ce pays.
Bon, c'est un Bobby qui a envie d'astiquer nos papilles, j'ai bien compris. Winter Family et Fosta, et là c'est dans un lieu encore atypique que vous aviez exploité l'an passé avec une forme assez détonnante et étonnante, c'est la Maison des Cœurs.
Voilà, l'année dernière on y a accueilli le 3e championnat de France du Man Beatbox, donc du hip-hop a cappella dans une salle comme ça. C'est une salle qui a été traitée spécialement pour le chant choral à Montpellier, toutes les chorales de Montpellier répètent là-bas, et on a la chance d'accueillir Winter Family, un duo très très, alors là aussi eux ils parlent de musique profane sacrée, je crois qu'on est dans ça, c'est-à-dire un mélange de choses chantées en hébreu qui pourrait rappeler la musique sacrée avec de l'harmonium et en même temps des thèmes qui ne sont pas religieux. C'est très 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 beau, c'est très émouvant. Et il y aura Fosta, une jeune montpelliéraine que tout le monde connaît maintenant, j'espère en tout cas sur Divergence.
Et que nous avions accueilli pour justement notre campagne et qui nous avait fait l'honneur d'ouvrir le Rockstore pour notre soirée de soutien avec sa harpe en solo, et c'est toujours assez exceptionnel.
Voilà, et là dans une ancienne chapelle avec ce traitement acoustique qui est celui de la Maison des Cœurs, je crois que la harpe et la voix de Fosta trouveront là aussi leur meilleur écrin. Et on aura un lundi soir qui sera douillé, un peu comme quand on se met sous la couette, mais en même temps qu'on sort pour profiter.
Et puis on peut préciser que Winter Family joue assez régulièrement dans ce genre de lieu, hein, puisqu'on les voit poser dans une église visiblement, et qu'ils apprécient particulièrement l'acoustique de ce genre de lieu. Ça tombe pile poil en fait.
Voilà, donc toujours pareil, essayer de trouver le lieu le plus adéquat. Eux ils aiment bien le son de l'harmonium, ils aiment bien ce côté réverbéré de naturel, une réverbération naturelle, autant vous dire qu'on n'en rajoutera pas, qu'il y a dans la Maison des Cœurs. Et je pense pense qu'ils vont vraiment apprécier, ils ont apprécié qu'on leur a proposé, et quand ils vont venir sur place, ça sera un plaisir pour eux d'être dans un lieu qui correspond à leur démarche artistique.
Alors le temps nous étant compté, parce qu'on va te libérer pour aller justement au vernissage à la Chapelle de la Miséricorde, passons aux deux plats principaux, les deux plats de résistance, on pourrait dire.
Voilà, on aura l'occasion de toute façon de parler de la Disco Punk Party bien le jour même avec notre ami Alex Terror. On va évoquer le concert de Dominica. Dominica qui revient à Montpellier donc après pas mal d'années d'absence, hein, quelque chose comme 8 ans. Il revient au Rockstore avec un album fort réussi, la musique, le bien nommé. Et on en parlait tout à l'heure avec Pierre Bastien et Pierrick Sorin en première partie. Voilà, Dominica, encore un grand bonheur. Homme qui a toute sa place dans ce festival.
Voilà, tout à fait. Là aussi, avec le Pass Culture, c'est 9 euros. 9 euros pour voir un plateau comme ça où donc il y a Pierrick Sorin et Pierre Bastien, c'est-à-dire deux des créateurs en performeur. Ça fait partie il n'est plus là, donc je peux le dire. Hein, c'est des gens qui tournent sur toute la planète, qui sont dans les musées les plus réputés. Pierrick Sorin était au Tate Museum à Londres cet été. Pierre Bastien a fait ça sur toute la planète, via Rotterdam, etc. Et Dominica, c'est le pape de la pop. Le pape de la pop, non, c'était pas lui. C'est de la... Au niveau chanson, je pense que son apport... Alors, chaque fois, on dit, ouais, mais tu exagères quand tu dis ça. Mais je crois que son apport, on le verra par le passé, par le futur, est aussi fort que celui qui, par le passé, a été celui d'un Bachung ou d'un Gainsbourg. C'est-à-dire qu'il a libéré la langue française. Il y a plein de chanteurs qui, à l'heure actuelle, les Miossec, les Kali, etc., qui font référence à ce travail-là, parce qu'il a osé, parce qu'il a sa personnalité. Il s'en fout que, finalement, cette personnalité cadre avec ce qu'on attend. Et il est dans une vraie liberté de ton. Et bien ça, c'est 9 euros avec le Pass Culture au Rockstore donc ce jeudi. Et je pense que c'est important de se dire que une chose rarissime, 8 ans qu'il n'est pas passé, et dans cette configuration-là, avec des artistes qu'il adore et qu'il a déjà fait venir lui-même sur scène, c'est magnifique.
N'ayons pas peur des mots, c'est la plus belle soirée, je pense, du trimestre à Montpellier.
Et en tout cas, c'est peut-être aussi l'occasion de faire un petit peu d'autopromo et de parler de radio, puisque Dominica nous a fait l'immense plaisir d'accepter l'invitation pour une série de Bruits de fond diffusée en ce moment, depuis avant-hier, tous les jours sur Divergence à 8h et 13h. Et puis on parle de radio également pour évoquer les autres apéros radiophoniques, puisque Dominica ainsi que Pierre Bastien et Pierrick seront nos invités le jour du concert, le jeudi 12 novembre, en direct du Rockstore à partir de 18h. Et puis tous les autres artistes invités seront également sur notre antenne de 18 à 19h pour ces apéros radiophoniques.
Exactement. Merci, chers auditeurs. Merci au Caprice Bar du Musée de nous avoir reçus. Merci, Bobby. On te laisse partir au vernissage. Et merci demain, on se retrouve en direct du Jam, 18h, 19h, avec Fanga et Olivier de Montpellier. Et demain, retransmission en direct live du concert de la soirée. C'est comme ça, c'est cadeau, c'est Divergence. Et on se quitte avec Dominica.
See you.